Midi 30, 13h, c'est le journal de la mi-journée sur Europe 1. On retrouve Fabienne Lemoyle en direct du Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris.
Bonjour Marlène, bonjour
Fabienne.
Entendez la colère du monde agricole. C'est pas non seulement cette semaine qu'il faut l'écouter, mais c'est tout le temps.
Rassurez-vous, je n'écoute pas et n'écoute pas du monde agricole uniquement la semaine du Salon.
Plus de 4h30 maintenant qu'Emmanuel Macron arpente ici les allées du Salon de l'agriculture dans une ambiance plutôt conviviale, malgré la présence de quelques gilets jaunes qui ont voulu l'approcher. Nous rejoindrons Jean-Rémy Bodo qui suit la visite depuis ce matin, qui se poursuit actuellement avec les brasseurs après les éleveurs. Le Salon de l'agriculture au Europe 1 s'est installé, hall 1 sur le stand Terre de Lait où vous êtes les bienvenus. Les agriculteurs qui ont dit aussi au président qu'ils ne voulaient plus être stigmatisés, ce désamour ou cet agribashing, on parlera avec mes deux invités, le sociologue François Purseigle et le céréalier porte-parole d'Ici la Terre, Jérôme Regnault. Dans le reste de l'actualité, ça y est, le réacteur numéro 1 de Fessenheim a été arrêté cette nuit. Arrêt douloureux pour les habitants.
On va partir, donc on laisse notre famille. Mes parents, ma soeur. C'est sûr que voilà, ça va pas être facile, hein. Il faut faire avec.
L'épidémie de coronavirus avec plusieurs villes du nord de l'Italie qui ferment des lieux publics. Le journal des sports et une superbe affiche cet après-midi à Cardiff, Pays de Galles, France, nous dira Jean-François Pérez. La météo, c'est le printemps au sud, nous dira Valérie Darmon. Et puis à 13h, tout terrain, on parlera de la mascotte idéale qui se trouve ici dans le hall 1, superbe charolaise.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Voilà plus de 4h30 maintenant qu'Emmanuel Macron arpente ici les allées du Salon de l'agriculture. Le président qui est arrivé sans accord avec les 27 puisqu'il n'y a pas eu d'accord trouvé à Bruxelles sur le budget européen, donc sur la PAC, la politique agricole commune. Vous êtes aux côtés du président depuis 8h ce matin, Jean-Rémy Bodo. Quel accueil ont réservé les agriculteurs au président ?
Eh bien Fabienne, depuis ce matin, le président s'est immédiatement frotté aux inquiétudes du monde agricole. À peine avait-il passé la porte qu'il a eu 30 minutes de discussion improvisée avec des agriculteurs. Des échanges directs, fermes, parfois âpres, retraite, budget européen, mais surtout des sujets très techniques autour des zones de traitement par les pesticides. Des questions qui entraînent beaucoup de tensions avec les riverains des champs. Emmanuel Macron a tenté de rassurer les paysans.
Entendez la colère du monde agricole, monsieur le président. C'est pas non seulement cette semaine qu'il faut l'écouter, mais c'est tout le temps. Il nous faut des réponses absolument aujourd'hui. Autrement, mais je suis désolé, il va y avoir une cassure entre vous et nous, et j'en suis désolé. Donc respectez tout ça, s'il vous plaît.
Rassurez-vous, le président le sait, je n'écoute pas et ne m'occupe pas du monde agricole uniquement la semaine du salon.
Mais j'espère, monsieur le président.
Voilà, il faut noter qu'à part ces échanges, l'accueil du chef de l'État ici au salon est plutôt courtois.
Voilà, un accueil plutôt courtois, vous nous dites, mais une visite marquée aussi par des gilets jaunes qui ont tenté d'approcher le président.
Oui, Emmanuel Macron, au milieu de la foule, a notamment été interpellé par une femme reprenant les critiques des manifestants sur le référendum d'initiative citoyenne, la démocratie ou la répression des manifestations violentes. Emmanuel Macron a fini par proposer à cette femme de la recevoir avec d'autres gilets jaunes, ce qui est une première. L'échange a duré plusieurs minutes, mais en voici un petit extrait.
Je me prends des grenades de désencerclement. Je vis la guerre tous les samedis.
Mais
ces personnes qui sont agressives, ce sont les policiers.
Non, mais nos forces de l'ordre, il n'y a personne qui s'engage pour être agressif.
Mais moi, je les comprends, ils en peuvent plus. Mais nous non plus, on n'en peut plus.
Mais donc,
vous ne recevez pas les gilets jaunes.
Eh bien, faites-moi, on peut prendre vos coordonnées. Vous faites un groupe.
Oui.
Et je reçois un groupe.
D'accord, ben moi, je vous donne mes coordonnées sans problème.
Voilà, et un peu plus loin, notez que c'est l'une des figures des gilets jaunes, Éric Drouet, qui a tenté de s'approcher du président. Il a été expulsé, sorti manu militari du Salon de l'agriculture par les forces de l'ordre.
Et voilà, Jean-Rémy Bodo qu'on retrouvera à 13h et qui continue à suivre cette visite d'Emmanuel Macron qui se poursuit actuellement au Salon de l'agriculture. Je vous l'ai dit, pour m'accompagner dans ce journal de la mi-journée, deux invités, Jérôme Regnault, céréalier et porte-parole d'Ici la Terre. Bonjour.
Bonjour Fabien.
Et puis François Purseigle, sociologue spécialiste du monde agricole. François Purseigle, sur cet accueil justement, on a vu des échanges assez âpres certes, mais quand même plutôt un bon accueil du président, ça vous étonne ?
Non, ça ne m'étonne pas. Vous savez, la plupart des agriculteurs ont voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Il était autour des 30% d'intention de vote à la veille de l'élection. Donc il est attendu, il est attendu par une population qui se sait ou qui se pense du moins attaquée sur certains thèmes.
Et on y reviendra évidemment après ce journal. Jérôme Regnault, je le disais, céréalier, vous êtes donc un exploitant. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle visite justement ?
Oh, sur la visite du président, moi j'avais beaucoup plus d'attentes sur les discussions qui ont eu lieu hier soir en tant qu'agriculteur privé
à Bruxelles.
Concernant exactement le devenir de la politique agricole commune. Il a réaffirmé son intention de lier bien à l'économie de la production le devenir de cette politique européenne. Ici, au Salon de l'agriculture, j'attends qu'en effet, là c'est plus le côté porte-parole d'ici la terre qui va s'exprimer, j'attends qu'en effet, il renoue aussi le lien souhaité par les Français et avec leurs agriculteurs.
Alors, vous l'entendez sûrement autour de moi. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui arpente les allées du salon. Le public est venu en nombre dès ce premier jour. On dit souvent d'ailleurs que ce salon, c'est la plus grande ferme de France. Et c'est vraiment ça, Jean-Jacques Héry, vous m'avez dit que les visiteurs ont voulu appréhender, sont venus voir au plus près ce matin.
Oui, ils sont venus voir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Et ça permet d'assister à des très belles scènes, comme lorsque j'ai rencontré Agnès, une habitante de l'Essonne, en pamoison devant un poli solide et massif charolaise.
Je vous sens impressionné, là.
Bah oui, un peu, oui. Ça fait quand même un gros morceau. Elle est énorme.
Vous aviez déjà vu une grosse vache comme ça, quand même?
Pas de si près, non. De loin, mais pas de si près.
Et oui, le constat est là, implacable. Une grande partie de la population ne connaît plus grand-chose à l'agriculture. Et c'est pour ça que Vivien et sa compagne sont venus avec leurs deux petites filles.
Elles voient ce qu'on ne voit pas à Paris. On est de région parisienne, donc on n'a pas la chance de voir autant d'animaux.
De comprendre que le lait, ça vient de la vache et pas de la brique de lait, je trouve que c'est important.
C'est si compliqué que ça à comprendre?
Ouais. Ouais, franchement, je suis enseignante et oui.
Maintenant, j'ai plus peur des vaches.
Voilà, résultat de cette méconnaissance, de l'incompréhension chez les agriculteurs qui ne comprennent pas qu'on vienne en plus leur donner des leçons à propos de l'environnement, notamment de la part de gens qui ne connaissent absolument rien à notre métier. C'est ce qu'on m'a répété ici hier et ce matin. Mais ce salon doit être l'occasion de renouer le dialogue, veut croire Élodie, une jeune éleveuse laitière.
Il y a un échange qui se fait avec le consommateur. Les gens, ils veulent s'intéresser et savoir comment sont faits nos produits, comment ça se passe sur nos exploitations et comment on travaille. Donc c'est vraiment un échange qui se fait avec eux.
Et c'est vrai que quand on voit la queue au stand basque pour aller acheter du jambon quintoa et de la saucisse sèche de la vallée des Aldudes, eh bien oui, on se dit qu'une réconciliation qui passe par une connaissance et une éducation au terroir et à leurs produits ne peut pas être une mauvaise idée.
Mais je sens que Jean-Jacques Héry est déjà conquis, lui qui est levé depuis l'aube pour nous faire vivre ce salon de l'agriculture. François Pursec, je vous entendais écouter justement cette réaction. C'est ça vraiment, voir au plus près ce que font ces agriculteurs?
Oui, je pense qu'il y a un désir d'agriculture. Hein. Malgré tous les discours sur l'agribashing, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de césure que ça entre la société avec un grand S et puis ce qu'on va appeler les agriculteurs. Je pense que les agriculteurs sont pleinement dans la société, plus que jamais dans la société. Ils ont conquis la parité. En témoigne aussi la composition de leur propre famille, hein, avec des conjoints, des conjointes et des enfants qui ne travaillent pas forcément de l'agriculture et sur les exploitations. Donc les agriculteurs n'ont pas attendu le salon pour voir s'ouvrir leurs portes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'on a aujourd'hui un désir d'agriculture parce que l'agriculture cristallise des enjeux qui sont forts.
Et c'est ça qui nous alimente, Jérôme Regnault, ça vous amusait et ça vous plaît, j'imagine, ces échanges directs, hein, ici et, au salon.
Évidemment, on a constaté qu'on a créé ici la terre, qu'il y avait parfois une inquiétude, voire une complète interrogation des Français sur l'agriculture. Mais il y avait une confiance et un côté cœur, un rattachement à leurs agriculteurs. Et c'est cette proximité qu'on vit là, ici, aujourd'hui, en direct au salon, et que nous, on a voulu renouer via notre collectif.
Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouvera dans une dizaine de minutes pour échanger sur ce besoin de réconcilier, justement, les Français avec les agriculteurs.
Europe 1, midi 38, la suite du journal en direct du Salon de l'agriculture, Fabienne Lemoine.
Et l'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr l'arrêt cette nuit du premier réacteur de Fessenheim. Beaucoup d'émotions hier dans cette ville alsacienne pour la première étape du démantèlement de cette centrale nucléaire. Le reportage à Fessenheim de notre correspondant dans le Grand Est, Arthur Mbaché.
Ça y est, c'est fait. L'alternateur n'est plus relié au réseau. Jean-Luc Cardozo était dans la salle des commandes de la centrale de Fessenheim cette nuit au moment fatidique. Il a vu l'émotion et le professionnalisme, dit-il, de ses collègues d'EDF.
Techniquement parlant, c'est tout simplement l'ouverture de ce qu'on appelle le coupleur qui couple l'alternateur au réseau. Bien sûr, avant de procéder à ça, on a baissé la puissance du réacteur, on l'a ramené à 0%. Sauf que là, effectivement, c'est la dernière fois.
Nathalie va devoir déménager. Son mari fait partie des 850 salariés de la centrale nucléaire.
On va partir, donc on laisse notre famille. Mes parents, ma soeur. Voilà, donc c'est sûr que voilà, ça ne va pas être facile. Hein. Mais bon, il faut faire avec. De toute façon, c'est sûr que voilà, une autre centrale en Alsace, il n'y en a pas. Hein. Donc je serai obligée de quitter la région.
Annie est la maman de Nathalie.
Je ne suis pas contente du tout parce qu'on ferme cette centrale et on va chercher maintenant de l'électricité en Allemagne alors que là-bas, ils la produisent avec du charbon. Il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Je ne comprends pas. C'est très, très dur.
Les élus locaux se sont rassemblés ce matin devant la centrale Banderole et bonnet rouge sur la tête. Ils réclament plus d'argent à l'État pour les aider à surmonter la fermeture. Fessana et Arthur Mbaché, Europe 1.
Arthur Mbaché, que l'on retrouvera à 13h dans Tout Terrain pour voir justement comment les habitants vivent cet arrêt de la centrale de Fessenheim. À suivre, l'épidémie de coronavirus qui inquiète en Italie au point que certaines villes du nord du pays ont tout simplement décidé de fermer des lieux publics.
Midi 42, la suite du journal en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. On vous retrouve, Fabienne Lemoyle, donc hall 1 sur le stand France Terre de Lait.
Et on le rappelle, vous êtes bien sûr les bienvenus si vous voulez assister à ce journal en direct. L'épidémie de coronavirus avec la Chine qui se félicite ce matin d'un nombre de contaminations en baisse quand l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la manière dont certaines personnes ont pu être contaminées hors de Chine parce qu'elles n'ont pas été en contact avec des ressortissants de ce pays ou avec des voyageurs de retour de Chine. Et en Italie, une mesure surprenante prise par certaines villes du nord du pays, alors que deux personnes sont décédées du coronavirus, eh bien certains maires ont tout simplement décidé de fermer des lieux publics, Marion Gauthier.
Oui, les rues d'une dizaine de communes sont désertes depuis hier en Lombardie, où 16 cas ont été identifiés, 5 médecins et 11 amis qui auraient fréquenté le même bar. La ville de Codogno, au sud-est de Milan, est la première à avoir fermé ses lieux publics, à commencer donc par les bars, les écoles, les stades, mais aussi les supermarchés ou encore les bibliothèques. Le responsable de la santé publique en Lombardie, Giulio Galera, est même allé plus loin après une réunion d'urgence hier.
Nous avons estimé qu'il était nécessaire d'inviter la population des villes de Codogno, de Castiglione d'Adda et de Casal Pusterlengo à rester chez elles par mesure de précaution.
Et avec 22 cas de coronavirus, l'Italie est le pays le plus touché d'Europe. Nous sommes prêts, a cependant réagi le ministre de la Santé italien. De son côté, l'OMS s'inquiète parce que certains nouveaux cas sont atypiques. Les malades n'auraient eu donc aucun lien récent avec la Chine et aucun contact avec d'autres malades. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le temps presse. Il est encore possible de contenir l'épidémie, mais la fenêtre de tir se rétrécit.
Marion Gauthier.
Le journal des sports.
Avec Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Le sport ce samedi, bien sûr, c'est du rugby. Et quelle affiche, troisième sortie du 15 de France dans le tournoi des Six Nations.
Oui, après deux victoires à domicile, l'une formidable face à l'Angleterre, l'autre plus poussive face à l'Italie. Les joueurs de Fabien Galthié passent un gros test au Pays de Galles. Ils ne se sont plus imposés à Cardiff depuis 10 ans. Puis les Gallois ont éliminé les Français de la Coupe du Monde cet automne. Autant de raisons de frapper un grand coup cet après-midi pour ces Bleus nouvelle formule, emmenés par un capitaine très déterminé, le troisième ligne, Charles Olive.
Même si on n'a pas beaucoup de sélections, comme vous aimez bien rappeler tout le temps, je pense qu'on a envie de créer notre histoire à nous. Et puis voilà, et puis il y a de la maturité, quoi. On n'est pas des gosses qui sortent du top 14 à peine. Je pense qu'il y a de la maturité chez chacun de nous. Et voilà, c'est tout simplement, en fait.
Voilà, Charles Olivon avec Simon Rubin à Cardiff, Galles-France, coup d'envoi 17h45. On retrouvera Simon tout au long de l'après-midi en fil rouge. Et puis parce que Charles Olivon est toulonnais, j'en profite pour vous glisser que l'ancien président du Racing Club toulonnais, du Rugby Club, autant pour moi toulonnais, Mourad Boudjelal, sera l'invité demain soir de notre rendez-vous mensuel face aux auditeurs. Rendez-vous à ne pas manquer, sa déclaration sur le PSG hier soir a déjà fait couler beaucoup d'encre.
Et cela nous amène logiquement au football avec la 26e journée de Ligue 1.
Oui, hier soir, Lyon s'est imposé à Metz 2-0 et se rassure, au moins un peu, avant son 8e de finale de Ligue des Champions mercredi face à la Juventus. Match nul de partout entre Nice et Brest. Cet après-midi, Marseille accueille Nantes. Attention, record 2500e match de l'OM en Ligue 1. C'est le premier club français à atteindre ce chiffre. L'OM, presque indéboulonnable dauphin du PSG, avec 11 points d'avance sur le 3e. Rennes, c'est ce que tout le monde pense. Mais pas les Marseillais. L'attaquant Valère Germain n'est pas le corbeau de la fable de La Fontaine. Il se méfie des flatteurs.
Tous les coachs sont un peu malins aussi. Donc ils essayent de nous déconcentrer en nous disant que ça y est, on est deuxième pour être peut-être un peu moins concentré quand on commence les matchs. Mais j'ai un peu d'expérience maintenant. Je sais que ça peut aller très vite. On est sur une très belle série en Ligue 1 sans perdre. Mais il peut y avoir aussi des moments où deux ou trois matchs où tu ne gagnes pas. Et dans ce cas-là, ça peut revenir assez vite. Donc on n'y est pas encore, on est loin d'y être. Voilà, on ne va rien lâcher, on a vraiment envie de y aller. Parce que ça fait deux saisons qu'on a envie, mais qu'on échoue. Donc j'espère qu'on ira cette année.
Voilà, Valère Germain au micro de Stéphane Frangy, OM Nantes, 17h30, match à guichet fermé, hein, 60 000 spectateurs. Et puis à 20h, le multiplex dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau, Lille-Toulouse, Dijon-Monaco, Angers-Montpellier et Strasbourg-Amiens. Le PSG jouera lui demain soir à 21h face à Bordeaux.
Et puis du biathlon, dernier week-end des Mondiaux en Italie.
Oui, l'hôtel de la délégation russe a été perquisitionné tôt ce matin. Les policiers recherchent des produits dopants. Affaire à suivre. Sur la neige, relais féminin ce matin. Les Français sont très très loin d'un potentiel podium. Et puis les garçons cet après-midi avec les champions du monde Martin Fourcade et Emilien Jacquelin. Un dernier mot de tennis, Fabienne, avec la belle performance de Gilles Simon au tournoi de Marseille. Le Français a battu le numéro 5 mondial, Daniil Medvedev. Ce soir, la demi-finale face aux jeunes prodige canadien Ogier Aliassime. Voilà Fabienne.
Merci beaucoup Jean-François Pérez. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi. Bonne nouvelle, c'est le printemps dans le sud, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, avec des températures jusqu'à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, dignes d'un mois d'avril et notamment au sud évidemment. Vos thermomètres afficheront 18 à Manosque, Saint-Giron, Carcassonne et Nîmes dans quelques heures. 17 à Marseille, à Mont-de-Marsan et Toulon ainsi que Montpellier, 16 degrés à Nice et à Bordeaux, 15 à Biarritz, à Tours et à Grenoble. Ce n'est pas très contrasté avec le nord puisqu'à Paris, à Lyon, à Laval et à Angers, il fera 14, 13 à Nancy et à Nevers et 12 degrés à La Rochelle et à Brest. Du côté du ciel, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Val-de-Loire, Occitanie, PACA et Corse. Après-midi, très ensoleillé, agréable évidemment, vous vous en rendez compte depuis ce matin puisque le soleil brille depuis son lever. De la Bretagne au bassin parisien, aux Hauts-de-France, jusque dans les Ardennes, c'est plus nuageux évidemment. De plus en plus nuageux si on va le long de la Manche où le vent souffle en plus jusqu'à 80 km/h en pointe.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous le savez, Europe 1 a installé ses studios aux portes de Versailles à Paris, Hall 1 au Salon de l'Agriculture. On en a déjà beaucoup parlé, on voit dans les discussions ici, dans les allées du Salon, on parle beaucoup de ce désamour peut-être, ou de ce besoin de réconcilier les Français avec leurs agriculteurs. Et on va en parler avec mes deux invités qui connaissent bien ce monde agricole, le sociologue François Purseigle et le céréalier porte-parole d'Ici la Terre, Jérôme Regnault, dans un instant.
Europe 1 vous attend, porte de Versailles à Paris, au Salon de l'Agriculture, stand France Terre de Lait, Hall 1. Et n'hésitez pas à venir à notre rencontre, il est maintenant 12h50, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et vos invités, toujours en direct du Salon.
Et oui, superbe stand, effectivement, pas très loin de la mascotte dont on parlera dans Tout Terrain tout à l'heure, idéal, une très belle charolaise. Et pour parler des enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs qui se sentent parfois, on l'a dit au début de cette édition, mal aimés, on a parlé d'agribashing, des agriculteurs ont d'ailleurs interpellé, on l'a entendu à son arrivée Emmanuel Macron, ils en ont marre d'être stigmatisés, ils attendent des messages forts. Eh bien, deux invités avec moi qui connaissent bien ce monde agricole. François Purseigle, sociologue et professeur à l'ENSAT, l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Vous venez d'écrire « Le nouveau capitalisme agricole » aux éditions de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Jérôme Regnault, porte-parole du collectif « Ici la Terre », céréalier à plaisir dans les Yvelines. Rebonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec vous, Jérôme Regnault, avec ce slogan de cette 57e édition du Salon de l'agriculture. L'agriculture vous tend les bras. J'ai l'impression que ça montre bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce besoin de réconcilier les Français avec les agriculteurs. Vous le sentez, ce désamour sur le terrain, justement? Pour vous, c'est une réalité, cet agribashing?
Je le ressens d'une manière, en effet, c'est-à-dire à travers les différents coups de fil qu'on a pu recevoir sur le numéro vert d'Ici la Terre.
Parce que vous avez créé un numéro qui permet de faire dialoguer justement les agriculteurs avec les Français.
Exactement, de pouvoir reconnecter l'ensemble des Français avec leurs agriculteurs, c'est-à-dire ils appellent le numéro vert et ils tombent sur un agriculteur pendant son activité professionnelle, comme ils pouvaient le rencontrer sur le terrain hier. Aujourd'hui, on s'est un petit peu tous perdus de vue. Eh ben, ils peuvent être reconnectés avec cet agriculteur qui témoignera en toute sincérité de ses pratiques quotidiennes.
Et qu'est-ce que les Français demandent à ces agriculteurs quand ils appellent?
Alors, on a beaucoup de témoignages de sympathie et d'inquiétude. On a aussi beaucoup de questions passionnées, évidemment.
Lesquelles?
Sur le bien-être animal, évidemment. Et puis, concernant les grandes cultures, les céréales, bien plus sur les produits dits phytosanitaires, c'est-à-dire de protection des plantes. Et le plus connu d'entre tous, le glyphosate.
François Purseigle, je me tourne vers vous. Pourquoi ce désamour? Pourquoi ce divorce? Alors qu'on le voit ici, on a entendu le reportage de Jean-Jacques Herry, les Français viennent au contact des agriculteurs. Ils veulent savoir d'où sort le lait, qu'il sort bien du pied de la vache. C'est ça qu'ils veulent montrer à leurs enfants.
Je ne pense pas qu'il y ait un désamour entre les Français et puis leurs agriculteurs. Il y a aujourd'hui une question agricole qui ressurgit dans le débat public. Ça déstabilise les agriculteurs, ça déstabilise les pouvoirs publics qui étaient avec les agriculteurs dans un face-à-face. Et effectivement, aujourd'hui, on a une question agricole qui est sujette à des controverses. On voit que la question agricole cristallise des enjeux qui sont forts, hein, l'enjeu alimentaire auquel les Français sont attachés, l'enjeu territorial, parce que la plupart des agriculteurs, en fait, gouvernent, administrent un grand nombre de territoires sur l'ensemble du territoire français.
Je crois qu'il y a à peu près un maire, deux maires sur dix qui sont agriculteurs, mais c'était quand même 50%, je crois,
voilà, beaucoup plus important. Voilà, 13,4% hein, des maires sont des agriculteurs. Alors par contre, ils n'administrent que 3% de la population, mais par contre, ils administrent 75% du territoire. Ça, c'est intéressant de souligner. On l'a évoqué lors d'un séminaire à Sciences Po encore cette semaine. Et donc, on voit bien que cette population s'efface dans la société. Et au moment même, paradoxalement, où elle s'efface, ressurgit une question agricole auquel les Français sont attachés. Alors avec des Français, en plus, qui sont le plus souvent issus de ces mondes-là et qui se pensent tous légitimes pour parler d'agriculture, alors qu'ils connaissent de moins en moins les questions agricoles.
C'est ça le problème, Jérôme Brignaud. Justement, tout le monde se sent un petit peu agriculteur. On dit toujours, là je ne vais pas faire un parallèle avec le football, hein, mais tout le monde est un peu sélectionneur, c'est pareil dans l'agriculture.
C'est vrai que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que cet attachement au monde agricole, il est encore certain chez les Français. On a tous un membre de notre famille, à deux générations près maximum, qui est ou qui a été agriculteur. Et donc, les Français sont restés, côté sélectionneur, vous avez raison Fabienne, sont restés persuadés de connaître le métier. Alors que moi-même, qui suis installé depuis 20 ans, le métier a énormément changé par sa précision, par les technicités. C'est-à-dire les fondamentaux du métier, qui est éleveur ou céréalier, grande culture ou peu, sont les mêmes. Mais les techniques pour amener nos pratiques, nos choix, les conseils, les prises de décision et surtout les applications ont formidablement changé.
Et c'est important de réconcilier ces deux mondes aussi parce que la question s'adresse à tous les deux. La relève n'est pas forcément là. Je crois que la moyenne d'âge d'un exploitant, c'est 52 ans. Les deux tiers disent qu'ils n'ont pas de repreneur quand ils s'arrêteront.
Oui, c'est vrai. Il y a un enjeu très important sur ces questions de génération agricole. C'est-à-dire qu'on a un modèle formidable en France qui est l'exploitation familiale. Pas que ça doit être une zone réservée à ceux qui sont déjà agriculteurs, mais c'est la taille de l'exploitation, c'est-à-dire vous avez un agriculteur près de chez vous qui peut vous communiquer avec vous, qui est accessible, qui est soit maire hier, qui est dans les tissus associatifs, etc. Et si on perd ce niveau-là, on aura en effet certains agriculteurs qui se tourneront par la vente directe vers les consommateurs et le reste du métier qui va s'industrialiser avec lequel on ne saura plus parler au quotidien. Et ça, ce serait dramatique.
François Pursègle, c'est ça le risque?
Disons que le défi et l'enjeu majeur, au-delà de l'agribashing, c'est celui effectivement de la transmission et du renouvellement des générations. 90% des exploitations agricoles françaises sont de type familial. Seuls 20% correspondent au modèle classique, un papa, une maman et un fiston qui va reprendre l'exploitation. La plupart des exploitants agricoles français sont seuls sur leur tracteur, avec ou sans des salariés. Et on voit bien que se développe aussi une agriculture de plus en plus diverse. C'est ça aussi l'enjeu et le défi. C'est-à-dire que par-delà les différences entre filières, il y a des modèles entrepreneuriaux qui sont de plus en plus différents. Et donc ça complexifie le discours qu'on peut tenir sur l'agriculture.
Une dernière question, parce que ça va être lancé demain au Salon. Une grande consultation, c'est la Commission européenne qui l'annonce, qui va durer 3 mois, sur l'utilisation des fonds européens. Je me tourne vers vous, Jérôme Regnault. Cette idée d'un débat public, alors pourtant vous appelez un dialogue entre les Français et les agriculteurs, ça vous fait peur?
En effet, j'appelle le dialogue, c'est-à-dire que les interrogations des Français sont évidemment légitimes, puisqu'on parle d'une part de leur paysage, leur environnement, mais surtout de leur santé, l'alimentation étant la première.
Parce que c'est la question, c'est est-ce que les subventions européennes ne doivent servir qu'à soutenir les agriculteurs ou est-ce que ça peut servir effectivement à la biodiversité?
Tout dépend en effet où on placera le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de cette politique agricole commune à l'Europe, si elle peut rester commune? Elle doit être encore tenue à l'économie et le mot de production ne doit pas être vulgaire dans notre pays. Sachons comment le faire, sachons quelles sont les pratiques, rendons des comptes, on en rend déjà professionnellement énormément vis-à-vis de l'administration. Donc l'agriculture française est un livre ouvert, parlons-en avec les Français, rassurons-les. Par contre, le choix de quelle sera cette politique appelle un petit peu de professionnalisme quand même sur le sujet.
cette consultation appelée par la Commission européenne, hein, donc on l'a dit, pas par le gouvernement français, que les Français disent ce qu'il faut faire de ces subventions européennes. Vous en pensez quoi?
Ça témoigne du fait que la question agricole est une question citoyenne, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc on voit bien que les politiques sont en attente d'un discours qui émane du reste de la société. Alors avec une politique agricole de plus en plus compliquée à mettre en œuvre, pourquoi? Parce que...
Et on a vu la difficulté à Bruxelles aussi.
Oui, et puis un éclatement des structures d'exploitation. Aujourd'hui, les exploitations françaises n'ont plus rien à voir avec celles d'hier, mais n'ont plus rien à voir aussi avec celles des autres pays, parfois, de l'Union européenne. On a construit une politique agricole au moment même où l'ensemble des exploitations à l'échelle de l'Union européenne étaient de taille moyenne et familiale. Et aujourd'hui, on voit bien que le modèle agricole a complètement éclaté.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé sur ces questions. Et on le voit, évidemment, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de dialogue entre vous sur ces questions agricoles. Merci beaucoup Jérôme Regnault, porte-parole du collectif Ici la Terre. Merci beaucoup François Purseigle. Je rappelle votre livre, Le nouveau capitalisme agricole à Sciences Po. Et on retrouve une interview passionnante dans le 1 l'hebdo cette semaine, justement, sur la question des exploitations agricoles. À 13h, on retrouve Tout Terrain. On parlera de la mascotte qui est à quelques mètres de nous. Idéal, la charolaise.
13h, bon week-end avec Europe 1. À suivre, Tout Terrain en direct du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, Fabienne Lemoyle, vous êtes sur place, mais juste avant, un petit point sur l'info de ce samedi.
Justement, on va retrouver dans les allées du Salon Jean-Rémy Baudot, qui suit depuis 5h maintenant Emmanuel Macron dans les allées du Salon, dans une ambiance, on a dit, plutôt d'échange, mais conviviale.
Oui Fabienne, alors ça n'est pas la chaleur que le salon a pu connaître du temps de Jacques Chirac, mais Emmanuel Macron se prête tout de même à l'exercice, goûtant au plateau de fromage, au pain, aux bières, l'atmosphère. Et vous le disiez, est plutôt détendu actuellement à l'image d'un secteur agricole qui se porte plutôt mieux cette année que les années précédentes. Un peu plus tôt dans la matinée, le président avait toutefois été accueilli par une délégation d'agriculteurs venus porter leurs doléances, leurs inquiétudes sur les traités internationaux, sur l'utilisation des pesticides, le malaise des paysans qui se sentent parfois stigmatisés sur les questions environnementales. Emmanuel Macron interpellé aussi sur l'échec des négociations sur la PAC, la politique agricole commune. Hier à Bruxelles, il a tenté de rassurer.
Non, parce que si on n'a pas d'accord, on garde le système. Nous, on est protégés par le fait que si on n'a pas d'accord, on garde la PAC telle qu'elle est.
Bonjour, oui. Bonjour, monsieur le président.
On l'a fait par 12e, donc c'est bon.
Vous avez que les gens étaient
Ah ben non, parce qu'on n'a pas cédé.
Monsieur le président.
On ne cède pas à ceux qui veulent réduire le budget.
Monsieur le président.
Voilà, on notera que par ailleurs des gilets jaunes sans gilet ont tenté de s'approcher du chef de l'État. La figure emblématique Éric Drouet a même été expulsé manu militari du salon, tandis qu'une femme se revendiquant des gilets jaunes a discuté un long moment avec le président pour finalement être invitée par Emmanuel Macron à constituer un groupe pour venir le rencontrer à l'Élysée, ce qui serait une première.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot, qu'on retrouvera bien sûr dans le 18-20 ici en direct du Salon d'Agriculture avec Wendy Bouchard. Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne voulait pas battre son marathon de 14h. Dans le reste de l'actualité, on en reparlera dans un instant dans Tout Terrain. Le réacteur numéro 1 de Fessenheim qui a été arrêté cette nuit, un arrêt douloureux pour les habitants. Et puis cette superbe affiche cet après-midi à Cardiff, Pays de Galles, France, c'est le tournoi des Six Nations.
Et vous restez avec nous Fabienne Lemoyle, on fera bien sûr un point sur l'info sur Europe 1 dans une heure.